La direction des affaires économiques du gouvernement mobilisée, elle contrôle la mise en place des prix à la baisse décidés sur 120 produits. Le CMS de Tours ouvre ses portes mardi prochain. La province sud va aider à l'installation d'une infirmière et d'un médecin. En métropole, mettre les oppositions devant leurs responsabilités, c'est la volonté de François Bayrou qui confirme qu'il engagera la confiance de son gouvernement le 8 septembre. La préparation des élections municipales à Nice, Éric Ciotti a annoncé sa candidature face au maire sortant Christian Estrosi. Et puis dans la page sport, la liste des joueurs de l'équipe de France pour les deux matchs à venir de qualification au Mondial 2026. Ce sera face à l'Ukraine puis l'Islande les 5 et 9 septembre prochains. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les soldes d'hiver débutent samedi prochain, moment toujours important pour les commerçants. Nous nous pencherons d'ailleurs sur le secteur du commerce ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, juste à la fin de ce journal. Nous en parlerons avec le président du syndicat des commerçants, Roland Delay, avec Charles Germain, élu à la CCI, et Didier Vernet, qui est le vice-président du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie. Les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin de ce journal. Un soutien au pouvoir d'achat des Calédoniens, c'est l'objectif de l'accord cadre qui a été signé il y a deux mois entre le gouvernement et les grandes enseignes. Ils se sont engagés à baisser de 10% les prix de 120 produits de première nécessité. Depuis, l'accord se met en œuvre et des contrôles sont régulièrement réalisés dans les surfaces de distribution, Charlotte Coulson.
Baguettes de pain, arômes magie, lait en poudre, farine, yaourt. La liste est longue, celle des produits dont le prix a baissé le 1er juillet 2025. C'est en tout cas l'engagement qu'ont pris les représentants des industries locales de la transformation, de l'importation et de la grande distribution pour soutenir la consommation des ménages. Une démarche volontariste, mais à laquelle il faut maintenant se conformer. C'est tout le rôle de la direction des affaires économiques qui, depuis plusieurs semaines, mène des contrôles dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité. C'était par exemple le cas ce matin au Géant Sainte-Marie. Arnaud Vittori, contrôleur des prix à la DAE, parcourt les rayons carnet en main pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus chez les vendeurs.
On va faire le tour en suivant notre liste de produits réglementés. On va vérifier. Il y en a certains qui ont des prix maximum à respecter, d'autres des coefficients de marge. On a des bases de données sur les prix. On peut voir les évolutions de prix sur de longues périodes. Via aussi le site prix.nc. Et c'est comme ça qu'on s'est basé pour faire ça. On va attaquer par les rayons secs. Chocolat, 610. Donc là, on est bon. Donc le prix est respecté, la PLV est respectée. Donc sur ce produit-là, on est bon. On va continuer dans le rayon. Là, on a les SAO, 185, 195. Donc là, on peut voir que le prix est même inférieur au prix réglementé, parce que le prix réglementé, c'est un prix maximum, donc les commerçants ont le droit de faire en dessous. Donc sur tout ce qui est coefficient de marge, nous, notre méthode de contrôle, c'est qu'on va faire une demande de facture. Donc là, on va faire la demande sur l'huile de tournesol et sur l'huile d'olive. Dans le cas d'une demande de facture, nous, on laisse 7 jours aux commerçants pour nous envoyer ces factures. Et comme ça, nous, on va pouvoir calculer la marge. Alors pour l'instant, on est à une centaine de contrôles qui ont été effectués en grande surface et en petite surface sur tout le territoire. Et sur les 100 contrôles, on a relevé une vingtaine d'infractions.
La modération des prix concerne donc 120 articles en hypermarché, 70 en supermarché et une trentaine en commerce de proximité. Les contrôles sont réalisés sur tout le territoire et si la DAE est pour l'instant dans une démarche de pédagogie avec les commerçants, les sanctions sont bien réelles pour ceux qui ne respecteraient pas la réglementation. Franck Esposito, adjoint au chef du service des prix à la direction des affaires économiques.
Chaque trimestre, on essaye de faire tout le territoire. Après, on agit également et principalement sur plainte. Donc dès qu'on a une plainte, on y va tout de suite. D'une manière générale, sur un accord interpro, ce sont des engagements pris par les professionnels. Donc sur la licéité des prix, on n'a généralement pas beaucoup d'infractions. Par contre, on a beaucoup de défauts d'affichage. Depuis la mise en place de l'accord, on a quand même entamé toute une phase de pédagogie, on va dire. On a expliqué l'accord et notamment aux petites surfaces. Mais ensuite, nous, la procédure, c'est un avertissement écrit d'abord. Et ensuite, en cas de récidive, on a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de francs par infraction constatée.
La liste des 120 produits est disponible sur la page web du gouvernement. Le site internet prix.nc permet quant à lui de suivre l'évolution des prix. Le consommateur peut également signaler un défaut en contactant la direction des affaires économiques au 23 22 50 23 22 50 en demandant le service des prix.
L'actualité politique, et c'est le statu quo dans l'imbroglio de la présidence de la province des îles Loyauté. Mais l'ex-président Jacques Lallier ne désarme pas et il a bien l'intention de faire valoir ses droits. Dans l'attente du résultat des recours qu'il a intentés, notamment de la réponse sur la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a déposée, il maintient la pression sur son successeur. Et il envisage de convoquer prochainement une assemblée de province.
Aujourd'hui, on a une province qui ne s'est pas réunie en assemblée depuis 4 mois et demi. Quand j'étais président, la subdivision et l'État, ils me rappelaient toujours qu'il faut faire les réunions tous les deux mois, selon la loi. Donc, voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a vraiment des choses à clarifier et permettre à ce que la province des îles puisse être gérée. En tout cas, la semaine prochaine, je vais certainement avoir des réunions avec la majorité des élus pour avoir en même temps la solution juridique, mais en même temps la solution politique. Je ne peux pas compter sur l'Union calédonienne, puisque j'ai l'impression que le fait que l'État n'a pas bougé, c'est aussi un peu pour nous affaiblir, de nous diviser pendant la période de négociation. Mais en tout cas, moi, j'utilise et le juridique auprès du Conseil d'État pour confirmer, parce que j'avais de toute façon attaqué l'élection du président. Donc je veux simplement que le Conseil d'État y attache cette démarche par rapport à sa décision.
Jacques Lallier qui accuse l'État de ne pas faire exécuter les décisions de justice, mais qui dans le même temps reproche à l'Union calédonienne de ne pas le soutenir. Une situation inextricable dont la province des îles n'est pas encore sortie. 19 délibérations sont inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal de Dumbéa qui se réunit ce soir à 17h30. Rappelons qu'hier, un nouveau groupe a été annoncé au sein de ce conseil municipal, le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement Dumbéa. Il s'agit d'une déclinaison locale de l'union entre les loyalistes qui réunit Génération NC de Nicolas Metzorf, le Mouvement Populaire Calédonien de Gilles Brial, les Républicains Calédoniens de Sonia Baquès et le Rassemblement d'Alcide Ponga. Un nouveau groupe dont les membres sont engagés aux côtés de leurs responsables pour soutenir, défendre et expliquer l'accord de Bougival, ont-ils dit. Ils ont aussi été déçus par les prises de position récentes du maire, notamment au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau groupe annonce qu'il fera des propositions concrètes dès le conseil municipal de ce soir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Approuvez-vous la décision unilatérale du président du gouvernement de retirer les deux drapeaux des permis de conduire calédoniens ? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'engagement de la confiance par le Premier ministre qui pourrait provoquer son départ de Matignon peut avoir des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Ils sont 39% à penser que cela n'aura pas de conséquences. Une bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Thiot. Le CMS rouvrira ses portes à partir du 2 septembre prochain. C'est la semaine prochaine. Un médecin et une infirmière assureront les consultations médicales du lundi au jeudi de 7h30 à midi et de 13h30 à 17h. Le CMS de Thiot avait fermé ses portes à la suite des émeutes de mai 2024. Patricia Pendre est la directrice adjointe de la DEPAS.
Nous travaillons depuis plusieurs mois avec la mairie en collaboration pour maintenir une activité de soins. Donc jusqu'à présent, tous les jeudis, il y avait quand même un médecin qui partait sur Thiot de l'équipe de la foi pour garder le lien. Et la mairie avait aussi financé en collaboration avec une subvention de la province sud des navettes pour faire descendre la population sur le CMS de la foi. Et là, grande nouvelle, à partir du 2 septembre, en effet, nous avons un médecin qui arrive jusqu'à fin décembre. C'est un médecin qui vient de métropole. C'est un médecin qui a une grande expérience dans les zones isolées. Il a déjà fait plusieurs territoires d'outre-mer et il connaît très très bien la Calédonie pour y avoir déjà exercé. Et comme ça, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus régulier et reprendre aussi les visites à domicile, notamment dans les zones isolées de Thiot. Monsieur le maire, avec qui j'ai eu réunion la semaine dernière, nous a dit qu'il avait eu beaucoup beaucoup de réunions avec les jeunes, les coutumiers, pour garantir la sécurité.
L'arrivée de ce médecin, mais aussi de cette infirmière au CMS de Thiot, s'inscrit dans la volonté de la province sud de renforcer l'accès aux soins de proximité et de soutenir les populations du territoire. En matière de santé, il sera 11h40 dans quelques secondes, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
À partir du 15 août, ce sont les Gémeaux Days. Dès 3 articles achetés avec une étiquette rouge Gémeaux Days, vous avez 30% de remise. Pour 4 articles, 40%. Et pour 5 articles et plus, moins 50% sur l'ensemble de ces articles. Il y a de quoi se faire plaisir. L'offre est valable dans les deux magasins Gémeaux Vêtements Ducos et Alma et dans tous les rayons. Et ça, c'est jusqu'au 29 août. À bientôt chez Gémeaux pour les Gémeaux Days.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
C'est le Green Friday chez Jardiland. Les 28, 29 et 30 novembre, profitez de moins 15% sur tout le magasin et sur jardiland.nc grâce à votre carte de fidélité. Animalerie, fleurs, déco, mobilier de jardin, barbecue, piscine. Transformez des petits prix en grand plaisir.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Dans la limite des stocks disponibles, hors service, promotion en cours et carte cadeau, voire conditions magasin.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Comment réinventer l'économie calédonienne ? Un colloque international se déroule à l'UNC en partenariat avec l'autorité de la concurrence, mais aussi à la CCI. Une trentaine de spécialistes vont apporter leurs réflexions sur les sujets de la concurrence et de l'intégration économique régionale. Au programme de ces trois jours, des tables rondes qui réunissent des économistes et des membres d'organisations internationales comme l'OCDE, l'ONU, l'OMC, mais aussi des représentants des autorités de la concurrence d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de la Réunion ou même des Caraïbes. Stéphane Rotterer est le président de l'autorité de la concurrence et il est le co-organisateur du colloque avec l'UNC.
C'est un changement de paradigme total et de mentalité. Bercy l'a dit clairement, tournez-vous vers votre région. Donc il faut arriver à avoir des routes maritimes ou de fret aérien qui soient plus compétitives, qui soient plus courtes. Et ça, c'est un des enjeux du colloque. Est-ce qu'on va vers des accords de libre-échange ? Vous savez qu'actuellement, la Calédonie est en train de terminer l'accord de libre-échange avec le Vanuatu. Je précise aussi à vos auditeurs, mais ils le savent parfaitement, qu'il y a plusieurs accords dans le Pacifique. Il y a le PICTA, qui regroupe quand même 12 pays du Pacifique, mais pas la Calédonie. Puis vous avez le PACER+, Australie, Nouvelle-Zélande, et donc, mais il n'y a pas la Calédonie. Alors la question, c'est, est-ce que peut y avoir des accords de libre-échange. Cette question mérite d'être posée et est une chance aussi pour les entreprises pour pouvoir supprimer des normes, ouvrir des marchés nouveaux et de pouvoir exporter. Mais pour ça, il faut arriver à monter en compétitivité.
Après une table ronde d'ouverture hier, ce colloque se poursuit aujourd'hui à l'UNC, puis demain matin à la CCI et un document de synthèse sera ensuite produit destiné au pouvoir public.
On va avoir un document de synthèse qui va remonter auprès du gouvernement. Le gouvernement pourra aussi éventuellement modifier ses déréglementations pour favoriser les échanges régionaux. Ce colloque n'est qu'une première pierre. C'est juste, on lance le débat. On a créé des liens avec la Réunion, les Antilles qui sont là. Donc on va s'inspirer aussi des modèles de la Réunion qui sont très intéressants. Il y a Hawaï qui est présent, qui va nous dire comment à Hawaï ils ont construit leur économie de diversification. Ils vont nous expliquer à Hawaï comment ils ont fait, dans d'autres pays comment ils ont fait, et c'est une source d'inspiration aussi pour la Calédonie.
Stéphane Rotterer, le président de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, évoque les changements de normes pour pouvoir importer des produits sur le territoire. C'est une interview qui est à retrouver en podcast sur notre site rrb.nc. Une séance publique au Congrès cet après-midi, elle débute à 13h et deux propositions de loi du pays sont inscrites à l'ordre du jour. Le premier pour favoriser l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Le second porte sur la création d'un fonds de réserve spécial. L'association Saint-Vincent-de-Paul organise une distribution de colis alimentaires à Normandie depuis 7h30 ce matin. Action dédiée aux personnes dans le besoin. Une centaine de colis de produits de première nécessité a été préparée pour cette distribution. Une partie est achetée directement par l'organisme caritatif. Une autre vient de donateurs. Écoutez la présidente de Saint-Vincent-de-Paul, Elisabeth Gau.
Des gros colis, les gens ont du mal à partir avec. On a mis des critères parce que, hélas, on ne peut pas servir toutes les personnes. Le premier critère, c'est avoir l'AMG et avoir plus de 70 ans. Être handicapé avec l'AMG. Pointer au chômage depuis les exactions. Avoir une famille d'enfants de moins de 12 ans, au moins deux enfants de moins de 12 ans et gagnant moins de 100 000 francs. Notre objectif, c'est l'objectif que Saint-Vincent-de-Paul a toujours, hein, servir les plus démunis, essayer de les servir au mieux. Et puis on sait qu'il y a une grosse crise alimentaire, on sait qu'il y a beaucoup de gens au pointage, au chômage, donc des personnes âgées aussi de plus en plus qui peuvent pas manger. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a mis tous ces critères en place pour pouvoir servir en priorité, bien évidemment, ces personnes.
Et plus d'une centaine de personnes, notamment des personnes âgées ou en situation de handicap ou au chômage, étaient présents ce matin pour récupérer leur colis.
C'est bien. Comme ça, quand on n'a pas assez de sous, un truc comme ça, on vient, puis quand il y a des bons, quoi. Un peu des nouilles, bidon d'huile, des paquets de gâteaux, des machins pour manger, quoi, des boîtes, boîte de sardines, boîte de je sais pas quoi, là, qui est dans le carton, là.
Enfin, une demande de dons alimentaires pour cette personne.
Du café, du poulet, des gâteaux pour les enfants, du sucre, de l'huile, paquet de soupe et du lait.
Ça va bien aider ma petite famille et puis je remercie beaucoup Saint-Vincent-de-Paul.
Saint-Vincent-de-Paul qui continue de collecter des dons. Les prochaines collectes auront lieu le 27 septembre devant les églises et début novembre devant les grandes surfaces. L'actualité dans la région avec les suites de la décision de Canberra d'expulser l'ambassadeur d'Iran d'Australie. L'Iran accusé d'avoir orchestré des attentats contre la communauté juive d'Australie. Les États-Unis se sont félicités de cette décision. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a révélé mardi que son gouvernement avait été informé par le service de renseignement intérieur ASIO que Téhéran était à l'origine d'au moins deux attentats à la bombe incendiaire contre la communauté juive d'Australie à savoir un café cochère de Sydney et la synagogue Hadas Israël de Melbourne. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré en réponse que la décision du gouvernement Albanese d'expulser l'ambassadeur d'Iran et de reconnaître la garde révolutionnaire iranienne en tant qu'organisation terroriste, je cite, « contribuera à amener le régime islamiste à rendre des comptes ». Nous saluons les mesures prises par l'Australie pour tenir le régime iranien responsable de ces actes haineux qui alimentent l'antisémitisme, a-t-il ajouté. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
Il est 11h47. Dans un instant, l'actualité en métropole dominée évidemment par l'annonce de François Bayrou qui va engager la confiance de son gouvernement. Ce sera le 8 septembre prochain.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et si Molière débarquait au Théâtre de Lille? La compagnie Grand Tigre signe une comédie drôle, pétillante et intelligente, traversant la vie et l'œuvre de celui qui, de son temps, fut le plus grand faiseur de grimaces sur scène, Molière. Venez en famille découvrir ce spectacle mordant les 30 et 31 août à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Du 29 au 31 août, rendez-vous au Dun Béamol pour le week-end de l'auto. Profitez d'offres spéciales sur une sélection de véhicules neufs et d'occasion parmi les plus grandes marques. Venez découvrir les nouveautés et facilitez vos démarches avec la présence de nos partenaires. Alors rendez-vous au Dun Béamol du 29 au 31 août. Et le week-end de l'auto, c'est aussi à la Concession Nord, à Gonnet.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
François Bayrou sait qu'on ne peut pas a priori obtenir la confiance du Parlement actuellement, deux jours après qu'il a annoncé et engagé cette confiance le 8 septembre prochain après une déclaration de politique générale. Le Premier ministre sait que ses chances de rester à Matignon sont quasiment inexistantes. Il s'en est expliqué sur le plateau du 20h de TF1. Et si personne ne croit dans les chances de François Bayrou, le Premier ministre ne baisse pas les bras et imagine un possible retournement de situation dans les 15 jours à venir. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Le Premier ministre tente le tout pour le tout, appelle les oppositions à changer d'avis en insistant une fois de plus sur la gravité de la situation.
La menace de surendettement mérite qu'on y réponde. C'est comme un bateau qui aurait une voie d'eau. Il y a des gens qui disent, t'en fais pas Simone, le bateau flotte encore. On est irresponsable.
François Bayrou renvoie la balle aux différents partis, martèle qu'il leur a bien tendu la main et les accuse d'avoir gardé le silence ces dernières semaines.
Au mois d'août, ils étaient en vacances. Si vraiment cette question de discuter ensemble est ouverte, je les reçois à partir de lundi.
Prêt à négocier, discuter, mais non à marchander, selon sa propre expression, le chef du gouvernement refuse de revenir sur la nécessité de réaliser 43 milliards d'économies. Une prise de parole par laquelle François Bayrou souhaite incarner le lanceur d'alerte, loin des postures politiciennes, et renvoyer par ce biais les oppositions à leurs responsabilités. Des oppositions qui ont malgré tout déjà acté qu'elles voteront contre la question posée le 8 septembre. Un vote qui devrait donc entraîner la démission automatique du locataire de Matignon.
L'absence de stabilité politique inquiète aussi les acteurs économiques. Inquiétude manifestée lors de la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF à Roland-Garros. Le patron des patrons l'a clairement dit à la tribune. Patrick Martin a également mis en garde contre la tentation de donner des gages à la gauche pour éviter la censure, en surtaxant les plus riches et en ajoutant de possibles contributions sur les entreprises.
Je veux être clair devant vous, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la forme. Un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie et nous nous y opposerons. On ne peut pas appeler à plus de production le matin et taxer encore plus les actionnaires l'après-midi.
Patrick Martin, le président du MEDEF, lors de rencontre des entrepreneurs de France à Roland-Garros. Et dans cette période d'instabilité politique, les élections municipales se profilent. On en connaît désormais la date. Le premier tour, ce sera le 15 mars prochain et le deuxième tour, une semaine plus tard, le 22 mars. À Nice, la bataille est déjà lancée. L'ancien patron des LR, Éric Ciotti, a en effet, qui a fondé son mouvement, l'UDR, pour rejoindre Marine Le Pen, a annoncé en effet qu'il était candidat à la mairie. Il espère bien faire tomber Christian Estrosi, qui va lui briguer un quatrième mandat de maire. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
C'est une compétition entre deux anciens collègues et amis, aujourd'hui devenus opposants. L'un est maire depuis 18 ans, c'est Christian Estrosi. L'autre, Éric Ciotti, était son adjoint avant de devenir député de Nice. La rupture a été consommée l'année dernière quand l'ancien patron des Républicains a décidé de franchir le Rubicon et de rejoindre Marine Le Pen. Fort du soutien du Rassemblement National, Éric Ciotti pense maintenant pouvoir devenir maire de Nice.
Pour donner une nouvelle perspective à cette ville de Nice qui souffre aujourd'hui de l'insécurité, qui se trouve dans une situation financière extrêmement dégradée, avec plus de 3 milliards d'euros de dettes, avec des impôts qui ont massivement augmenté, et puis avec une équipe sortante dont le maire est élu depuis 4 décennies au conseil municipal.
Et ce duel pourrait prendre une tournure nationale. C'est un premier match avant 2027. Le numéro 2 de Marine Le Pen contre le numéro 2 d'Édouard Philippe, analyse un proche d'Éric Ciotti. Difficile de dire pour l'instant qui sortira vainqueur de ce combat, car les sondages entre les deux hommes restent très serrés.
L'actualité en métropole, c'est aussi la suite de l'enquête du tronçonnage de l'Olivier planté à la mémoire d'Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Ce jeune juif avait été torturé et tué par le gang des barbares en 2006. L'arbre planté dans un square de la ville a été tronçonné mi-août. 2 suspects ont été interpellés. Jean-Baptiste Marty.
Il s'agit de 200 domiciles fixes des jumeaux de nationalité tunisienne. C'est grâce aux ADN trouvés sur place que les policiers ont pu remonter leur piste. Des empreintes prélevées sur la stèle commémorative et sur l'Olivier découpé à la tronçonneuse dans la nuit du 13 au 14 août dernier. Lors de leur interpellation, les policiers se sont aussi rendus compte en exploitant leur téléphone portable que les deux jeunes tunisiens s'étaient filmés en train de manier une tronçonneuse peu de temps avant les faits. C'est dans le jardin d'Alcobendas, là même où se trouvait l'Olivier, qu'ils ont été arrêtés, un endroit que les suspects avaient pour habitude de fréquenter. Les deux tunisiens sont donc en garde à vue pour destruction de biens d'utilité publique, violation de monuments dédiés à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Une profanation qui, on le rappelle, avait suscité l'émoi général, faisant réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron avait dénoncé, je cite, « un acte de haine, abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois », avait encore écrit sur X le chef de l'État.
Il sera 11h53 dans quelques secondes, le temps d'une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec Lionel Sabot. Et ensuite, on se retrouvera pour les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Les piscines des Joyaux, c'est 50 ans d'expérience. Des piscines en béton armé sur mesure, sans canalisation ni local technique déporté. Construire votre piscine, la rénover, la chauffer, bien sûr, c'est notre métier. Piscines des Joyaux, à vous les vacances à la maison.
Pour ton orientation ou ta reconversion, découvre toutes les opportunités qu'offre la formation en alternance de la CCINC. L'alternance, c'est une formation, une expérience, un métier. Des formations adaptées aux entreprises pour former les collaborateurs de demain. Rendez-vous le samedi 6 septembre dès 8h pour les portes ouvertes du CFA de la CCINC. Ne manque pas cette opportunité. Plus d'infos sur les sites cfa.cci.nc ou .a.nc. La CCI Formation Alternance, accélératrice de compétences et d'insertion professionnelle.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le sport avec du football pour commencer, Lionel Sabot et Didier Deschamps qui a communiqué cette nuit pour nous la liste des 23 joueurs qui sont convoqués pour disputer les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026. Ce sera face à l'Ukraine et l'Islande les 5 et 9 septembre prochains.
Ouais, une liste dans laquelle le monégasque Magnès Akliouche figure pour la première fois, tandis que Benjamin Pavard, lui, est absent. Présent également dans cette liste, c'est un peu une surprise, Adrien Rabiot, dont l'avenir à l'Olympique de Marseille demeure bien flou. Écoutez à ce sujet, Didier Deschamps, c'est le sélectionneur de l'équipe de France.
Je tiens Adrien par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il est capable encore de faire, bien évidemment. Donc, c'est important pour moi aussi de savoir dans quel état d'esprit il était aussi. Et par rapport aux 2 matchs très importants qui nous attendent, donc c'est très bien qu'il puisse être avec nous pour ces deux matchs.
Allez, je vous donne la liste des 23 bleus qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps. Pour les gardiens, Maignan, Chevalier, Samba. Côté défenseur, Konaté. Les frères Hernandez, Lucas et Théo. Gusto, Upamecano, Koundé, Digne, Saliba. En milieu de terrain, Doué, Tchouaméni, Koné, Rabiot et Thuram. Et puis côté des attaquants, Barcola, Dembélé, Mbappé, Olysée, Thuram, Cherki et Akliouch, donc, qui honora sa première sélection. L'équipe de France qui rencontrera l'Ukraine le 5 septembre, ce sera en Pologne, et l'Islande le 9 septembre, ce sera au Parc des Princes.
L'actualité du football, c'est aussi la fin ce matin des barrages de qualification pour la Ligue des Champions.
Avec les trois derniers clubs qualifiés, ça passe pour le FC Copenhague après sa victoire 2-0 face au FC Bâle. Qualification également du Benfica Lisbonne qui s'est imposé 1-0 face au Turc de Fenerbahçe. Qualification enfin du club de Bruges qui a atomisé les Glasgow Rangers, score final 6-0. Tirage au sort de la phase de ligue de la Champions League aura lieu la nuit prochaine. Pour nous, ce sera à Monaco.
Allez, parlons maintenant de la cinquième étape de la Vuelta. C'est du cyclisme et c'est la suite du Tour d'Espagne.
Oui, et c'est l'équipe Emirates qui a remporté le contre-la-montre qui était couru lors de cette cinquième étape du Tour d'Espagne à Figueras devant la Visma Leasebike du Danois Jonas Vingegaard qui a repris le maillot rouge de leader au Français David Godu. Emmené par l'Espagnol Ayuso, l'équipe Emirati a réalisé le meilleur temps sur le parcours de 24 km 100 en 25 minutes et 26 secondes avec seulement 8 petites secondes d'avance sur la Visma. Vingegaard, donc favori de l'épreuve, reprend la tête du classement général.
Et puis on va faire le point en tennis sur les suites de l'US Open. C'est le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. C'est sur les cours de Flushing Meadows.
Eh ben, j'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer ce midi côté français. Ça passe pour Benjamin Bonzi qui s'est imposé face à l'Américain Riron. Score final 2-6, 4-6, 7-5, 6-3 et 6-4. Ça passe également pour Arthur Rindeneck qui s'est imposé sur l'Espagnol Davidovici Fokina. Score final 6-4, 3-6, 2-6, 6-2 et 6-3. Et puis la petite surprise du jour, c'est la qualification d'Hugo Blanchet. Il est 184e au classement ATP. Il s'est imposé face au Tchèque Mensik qui est 16e au classement ATP. Une victoire en 5-7 et un match très serré. Écoutez bien, 7-6, 6-7, 6-3, 4-6 et 6-7 pour le Français.
On passe au sport sur le territoire avec cette soirée auprès des fans pour Maxime Grousset qui est actuellement en vacances sur le territoire.
Ouais, les Eaux du Mont d'Or, une marque dont le nageur est l'ambassadeur, organisait hier un événement à l'endroit, établissement de la baie des Citrons, en l'honneur de celui qui vient de décrocher deux titres de champion du monde en grand bassin du côté de Singapour. Des invités qui ont pu profiter d'instants privilégiés avec le double champion du monde qui retrouvait lui son entourage de Nouvelle-Calédonie.
Bonsoir et merci d'être venu. Merci à l'Eau du Mont d'Or d'organiser ça pour nous.
Moi, je suis Sandrine De Cara, la directrice marketing de la GVNC et des Eaux du Mont d'Or. C'était très important parce que nous sponsorisons Maxime depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est l'ambassadeur de la marque Eaux du Mont d'Or depuis ces années. C'est la première fois qu'il revient sur le territoire depuis qu'on a démarré la collaboration avec lui. Nous sommes très contents et très honorés d'avoir sa présence. En fait, sur les campagnes, ce qu'on voudrait, c'est que Maxime soit source d'inspiration pour les jeunes calédoniens. Et du coup, la rencontre avec ses fans, c'était un moment qu'on ne voulait pas louper. La collaboration entre Maxime et l'Eau du Mont d'Or était évidente pour nous parce que Maxime et l'Eau du Mont d'Or partagent les mêmes valeurs. L'Eau du Mont d'Or encourage une vie saine et active. Donc c'était évident pour nous que Maxime représente notre marque.
Et les fans ont pu profiter de cette soirée aux côtés de Maxime Grousset dans une ambiance conviviale. On rappelle qu'il a remporté cette année au Mondiaux de Singapour les titres sur 50 et 100 mètres papillon. Calédonien qui a également remporté l'argent sur le relais masculin 4x100 mètres 4 nages. Et du bronze sur le relais mix 4 fois 100 mètres nage libre.
Et puis ce petit rappel, les joueurs de la sélection calédonienne de football des moins de 16 ans sont qualifiés pour le mondial qui aura lieu au Qatar en 2026. Une qualification acquise grâce à une victoire sur Fidji en demi-finale du tournoi OFC. En finale, qui ne compte donc pas pour la qualification à la Coupe du Monde, les jeunes Calédoniens affronteront la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 2-0 sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée hier soir. C'est la fin de ce journal, il est midi. On se retrouve pour les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu dans un instant avec nos invités pour parler du secteur du commerce.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.